Quatrième et dernier ensemble à participer pour cette saison quotidienne de la Cité de la Voix de Vézelay. On est avec Aya Blasco-Lopez, Ibera Aori.
C'est pas en espagnol, c'est un peu inventé. Et on a décidé de mettre ce nom parce qu'on était inspiré par le siècle doré de la poésie espagnole et de la musique espagnole de fin du XVIe siècle et début du XVIIe. Et donc, on a mis Ibera, ça fait référence à la péninsule ibérique. Et Aori, c'est l'or. Donc, on avait la référence de ce moment historique très important pour l'Espagne.
L'âge d'or en musique en Espagne.
L'âge d'or de la musique en Espagne, c'est ça.
Et vous venez d'Espagne.
Sauf Jérémy Nastasi qui est français et italien. Donc on a un peu tous les pays de ce moment historique.
Comment avez-vous été amené à entrer en contact avec la Cité de la Voix, vous qui êtes plutôt du côté de Valencia, donc de l'autre côté des Pyrénées?
Oui. Ben, nous, on avait déjà beaucoup d'intérêt dans la musique française. En fait, on fait un programme qui fait partie de musique française espagnole. Et on était très intéressés au projet français. Et on a contacté avec un ensemble qui s'appelle Cantoria, qui a fait la résidence à Vézelay. Et donc, ils nous ont parlé de la résidence, du projet. On était très intéressés. Et après, on a commencé à connaître d'autres amis, collègues qui ont fait aussi la résidence. Et on a décidé de participer.
Chacun des groupes présents est venu avec sa singularité. Finalement, la vôtre, est-ce que ce ne serait pas de ne pas chanter a cappella, c'est-à-dire vous chantez personnellement, et puis vous êtes accompagné par un ensemble instrumental?
On ne chante pas a cappella, on est deux chanteurs, et on fait nos propres arrangements de pièces pour un ténor et une soprano. Et normalement, ce qu'on fait, c'est raconter des histoires dans nos programmes. C'est ce qu'on fait avec nos propres arrangements. Et ici, à Vézelay, on a préparé de petits programmes qui racontent deux histoires qui font partie de la France et aussi de l'Espagne.
Est-ce que ça veut dire que ces programmes sont adaptés aux lieux qui sont différents? Il faut le rappeler, vous vous produisez comme les groupes précédents à 16h à la Basilique Sainte-Marie-Madeleine et puis à 17h, on vous retrouve dans les jardins de la Cité de la Voix.
C'est ça. On aura deux programmes différents et vous nous trouverez en train de faire un petit programme à la Basilique uniquement avec le luth, flûte et chant. Et après, dans le jardin, ce sera avec le clavecin aussi.
Que a todos.
quelque chose qui a peut-être surpris les auditeurs moins avertis que vous l'êtes. Vous avez parlé de musique française et espagnole, expliquez-moi.
Oui, c'est ça. Au début du XVIIe siècle, et à cause des fiançailles des princesses espagnoles et françaises, ça veut dire Élisabeth de Bourbon et la reine Anne d'Autriche, avec ces deux fiançailles, la France et l'Espagne ont connu une très grande... ils ont eu un moment de beaucoup d'échanges culturels. Et surtout, il y a eu un grand échange culturel en France, parce qu'on trouve en France beaucoup de livres avec des pièces en espagnol. On trouve des airs de cour du début du XVIIe, ce sont les chansons qu'on chantait dans les cours royales ici en France, mais on trouve beaucoup de chansons en espagnol. Et on trouve beaucoup de chansons qui font référence aux noces d'Anne d'Autriche et Louis XIII, par exemple. Et donc, on est très intéressé par ce répertoire parce qu'on trouve qu'il y a une grande relation musicale entre les deux pays. Et en Espagne, avec la reine française qui habitait en Espagne, il y a eu aussi beaucoup d'influence dans la musique espagnole. Donc, on était très intéressé à ce moment-là, qui était vraiment un petit bijou dans la musique qui fait partie des premières 30 ans du XVIIe siècle, et on trouvait ça très intéressant.
Une démarche fréquente maintenant dans les groupes de musique, c'est d'essayer de se rapprocher au maximum de la manière de l'instrumentarium qui pouvait être utilisé, par exemple, au moment où on jouait ces musiques. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette démarche-là ? Vous nous avez parlé d'arrangement, c'est-à-dire est-ce qu'à partir de ce que vous trouvez, vous créez ce qui vous semble le plus proche d'une certaine vérité historique, ou est-ce qu'au contraire vous vous laissez porter par l'envie que vous avez de les interpréter ?
On a un peu les deux choses. En tout cas, c'est vrai qu'on fait on doit étudier les chansons, on doit étudier l'histoire, on a beaucoup d'informations, mais on s'adapte aux instruments qu'on a. Et ça, on pense que c'est aussi une chose très historique. À cette époque, par exemple, beaucoup de livres avec des airs de cour, on les écrivait uniquement avec le luth, avec l'arrangement, avec la tablature de luth. Mais ça ne veut pas dire que ces chansons étaient jouées uniquement avec le luth et le chant. On sait que ces chansons, dans d'autres livres, on les trouvait pour 4 ou 5 voix. Donc, ils ne nous donnent pas beaucoup de références avec quels instruments. Donc, nous, on pense que peut-être à l'époque, ils jouaient avec ce que les personnes avaient chez eux. S'ils avaient une harpe, ils jouaient avec une harpe. S'ils avaient un luth, ils jouaient avec un luth. S'ils avaient un clavecin, 2 flûtes et 2 chanteurs, peut-être ils le faisaient aussi comme ça. Et nous, on veut vraiment s'adapter à l'ensemble qu'on a. Et c'est pour ça qu'on fait nos propres arrangements, toujours avec une base historique. Par exemple, quand on fait les doubles, on écrit les doubles, ce sont les ornementations de l'époque, on les fait suivant les traités de l'époque, par exemple. Donc, c'est une manière nouvelle de comprendre cette musique. On veut la faire d'une manière très personnelle, avec notre propre musicalité. Mais, en tout cas, en s'adaptant aussi à l'histoire. Donc, c'est vraiment les deux.
Vous n'êtes pas dans la recherche de la reconstitution.
On aime la reconstitution, on aime la musique historique. C'est pour ça que nous, on étudie les traités, on étudie les fonds historiques, ok. Mais vraiment, on n'a pas cette... on pense que ce n'est pas une nécessité de faire la musique de manière archéologique. Et il faut vraiment communiquer avec le public d'une manière plus fraîche. Et c'est ça notre intérêt, c'est de vraiment faire une musique historique, mais qui sait parler au public moderne. On pense, tous les membres de l'ensemble, que ça, peut-être, c'était la manière aussi historique de faire la musique. Il fallait raconter quelque chose au public, soit une cour royale, soit des personnes qui viendront aujourd'hui nous écouter à Vézelay.
L'amour, le seul amour. Thank you.
J'entends plusieurs fois le mot communication. Elle passe bien sûr d'abord par la musique. Quelle est la part de la mise en scène, de la mise en espace?
Nous, vraiment, on veut pas faire du théâtre. On a choisi de faire des concerts normaux, mais en racontant l'histoire. Et parfois, on fait des mouvements, donc ce n'est pas un concert où on est vraiment fixe, comme ça, comme les concerts de musique classique normale. Mais on raconte vraiment l'histoire et parfois, on prend le personnage qu'on est en train de raconter. Même s'il n'y a pas un théâtre, parce que ce n'est pas un théâtre, mais parfois, on prend vraiment le sentiment du personnage qu'on raconte. Et on pense que c'est une manière plus fraîche et plus facile de faire comprendre les musiques qu'on veut faire aussi connaître au public.
Ce dernier groupe, donc, Libera Auri, à la Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, 16h et puis 17h à la Cité de la Voix, en extérieur ou pas, selon les conditions météo. Et puis, évidemment, concert hors les murs, samedi à 20h, et c'est jusqu'à dimanche. On met le lien sur le site de BFC Classique.